La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée au Petit Palais à Paris. Notre semaine porte sur l'écrivain irlandais Oscar Wilde. Oscar Wilde est mort à 46 ans seulement des suites de la syphilis, mais surtout de sa terrible incarcération, expérience de la fange et de la solitude dont il tirera néanmoins le beau poème qu'est la ballade de la geôle de Reading, ainsi que son De Profundis. Il faut ajouter à cela un seul roman, mais très célèbre, Le portrait de Dorian Gray, et des pièces de théâtre aussi, comme son drame Salomé, ou ses comédies, L'importance d'être constant et Un mari idéal. Nous en parlerons jeudi avec Alain Jumeau, tandis que Pascal Acquien commentera des textes de l'écrivain en seconde partie. Mercredi, nous serons en compagnie du théoricien de la littérature et essayiste Tsvetan Todorov, puis d'Anatole Tomsak, qui a traduit cette année une version non expurgée du portrait de Dorian Gray, redécouverte en 2011 par deux universitaires anglais. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, mon invité est un spécialiste s-dandisme. Il a publié au PUF en 2008 une philosophie du dandisme, puis Manifeste Dandy chez Bourrin Éditeur, mais aussi un petit éloge de David Bowie, le dandy absolu, cette année chez le même éditeur. Et donc pour commencer cette émission, une phrase célèbre de Wilde, rapportée par un autre dandy qu'il a bien connu, André Gide.
Vous avez rappelé ce propos assez pathétique et qu'il vous a tenu un jour. Voulez-vous savoir le grand drame de ma vie? C'est que j'ai mis mon génie dans ma vie, je n'ai mis que mon talent dans mes œuvres.
C'est une phrase de Wilde qu'on a souvent citée. Je ne sais pas s'il l'a dite à d'autres qu'à moi, car Wilde se répétait quelquefois, et sa conversation est très apprêtée, mais je crois pourtant, je ne l'ai vu que dans mon propre récit, et je crois cette phrase de première importance. C'est en effet le drame de la vie d'Oscar Wilde.
Bonjour Daniel Salvatore Schiffer.
Bonjour.
Cette phrase célèbre, j'ai mis tout mon génie dans ma vie et seulement mon talent dans mes œuvres, dont parle André Gide à Jean Amrouche. Si elle a vraiment été prononcée par Oscar Wilde, c'est une aubaine pour le biographe que vous êtes, parce que ça signifie que, au fond, la biographie de Wilde, c'est une œuvre d'art.
Exactement, c'est d'ailleurs la définition du dandysme. Si l'on suit l'un des aphorismes clés d'Oscar Wilde, il faut soit porter une œuvre d'art, soit être une œuvre d'art. Donc le dandysme, c'est faire de sa vie une œuvre d'art et de sa personne une œuvre d'art vivante. C'est exactement cela le dandysme.
Mais est-ce qu'on peut arriver à faire les deux en même temps ?
C'est difficile.
Faut choisir, oui.
C'est difficile. C'est pour ça que je me suis attaché, par exemple, à la figure de David Bowie, qui lui a réussi parfaitement cela. Sauf qu'il est allé même plus loin, lui. Il a fait de sa mort une œuvre d'art à travers son dernier disque, notamment son dernier clip vidéo.
Donc c'est le dandy
absolu. C'est pour ça que j'ai sous-titré ce livre, Petit danger de David Bowie, le dandy absolu. C'est une chose très rare, c'est pratiquement unique dans les annales de la littérature, parce qu'en général, les dandys finissent tragiquement. Oscar Wilde en est un exemple, il meurt à 46 ans. Dans des conditions atroces, à Paris d'ailleurs, dans une petite pension, là, l'hôtel d'Alsace, qui aujourd'hui est un hôtel célèbre et qui vit d'ailleurs assez sur l'aura que lui a conféré Oscar Wilde. Oscar Wilde meurt à 46 ans, comme vous l'avez très justement dit, après avoir purgé 2 ans de prison avec travaux forcés suite à son fameux procès en 1895, où il avait été condamné pour homosexualité, pour outrage aux mœurs. En fait, le vrai terme, selon la loi anglaise, c'était pour sodomie. À l'époque, c'était rigoureusement interdit. C'était un crime à l'époque très grave dans la société puritaine victorienne. Donc il s'affiche avec le jeune Lord Alfred Douglas, dit Bosie, auquel il va adresser son De Profundis, sa dernière œuvre, posthume d'ailleurs, publiée. Et il meurt dans des conditions tragiques 2 ans après sa sortie de prison. Il meurt d'une otite qu'il n'a pas pu soigner parce qu'il est sans argent, qui se transforme en méningite encéphalique. Et puis, comme il est très très affaibli, et alors a-t-il eu ou pas la syphilis? Certains disent que non. Ses confidents les plus intimes à la fin de sa vie disent que oui. La version officielle dit qu'il est mort d'une méningite encéphalique, dans d'atroces souffrances, dans d'atroces douleurs. Et donc sa vie, sa fin de vie en tout cas, n'est pas une œuvre d'art, comme celle de Barbey d'Aurevilly d'ailleurs, et surtout de Lord Brummel ou de Baudelaire.
Donc il n'est pas un dandy absolu alors
Il n'est pas un dandy absolu si le dandysme consiste aussi, après sa vie, à faire de sa mort une œuvre d'art. Alors le vrai dandy, le dandy absolu, c'est quelqu'un comme Bowie, par exemple.
Mais la tombe, par exemple, d'Oscar Wilde fait de la mort d'Oscar Wilde un événement pour tous les gens qui vont la voir.
C'est vrai,
au Père-Lachaise.
C'est la tombe la plus visitée, avec celle de Jim Morrison. C'est un mausolée de marbre blanc. Qui représente un sphinx ailé. C'est Wilde qui s'en va enfin après tous ses déboires. Et sur ce sphinx ailé de marbre, il y a ses attributs sexuels, mais qui ont été endommagés par des étudiants peu scrupuleux. Mais en tout cas, ce n'est pas là que Wilde était enterré au départ. Wilde...
Endommagé, mais embrassé aussi.
Oui, embrassé aussi. Il y a toute une série, on peut voir sur les marbres, le marbre blanc, toute une série de lèvres rouges qui sont ou des hommes ou des femmes qui vont embrasser la tombe de Wilde. Et c'est vrai que c'est une véritable œuvre d'art. En plus, c'est un sphinx. Wilde était féru d'égyptologie. Le visage de ce sphinx reproduit le trait de Wilde, ses lèvres assez épaisses et très charnues, son regard un peu langoureux. Mais il faut pas oublier que c'est bien des années après sa mort que les restes de Wilde ont été transférés au Père-Lachaise. En fait, Wilde était enterré d'abord en 1900, le 30 novembre 1900, il est mort. Donc en plein automne, un jour ou deux après, il a été inhumé dans un petit cimetière, le cimetière de Bagneux. Donc... dans la grande banlieue parisienne, il y avait 9 personnes en tout et pour tout le jour de son enterrement. Aucun représentant de l'intelligentsia française à part Paul Fort. 9 personnes en tout et pour tout, dans un petit cimetière avec un petit cercueil en bois de sapin qui a croulé, qui a craqué parce qu'il pleuvait très fort. Et c'est bien des années après que l'amant, le dernier amant d'Oscar Wilde, Robert Ross, a fait une souscription auprès des riches londoniens pour avoir une tombe digne de ce nom. Il a commandé alors à Epstein, qui était un sculpteur à l'époque très renommé, un monument. Et donc plusieurs mois après la mort de Wilde, ses restes ont été transférés de Bagneux au Père-Lachaise, où il est encore aujourd'hui, et avec un verre qui maintenant entoure la tombe, parce qu'on avait peur que les baisers et les gens qui vont toucher cette tombe...
Les baisers finissent toujours par abîmer.
Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous disais, avec Jim Morrison, là aussi, ce sont les deux tombes les plus célébrées et les plus visitées. Je vous dis ça parce qu'il y a des liens aussi étroits entre Wilde et puis certaines icônes du rock. On a parlé de Bowie, mais on aurait pu parler de Jim Morrison ou même de Bob Dylan, dont vous allez parler plus tard.
Alors Daniel Salvatore Schiffer, on a commencé un petit peu par la fin cette émission. Il faudrait revenir au début et peut-être d'abord à l'histoire de ce patronyme Wilde. Le nom complet d'Oscar Wilde, c'est Oscar Fingal, alors je le prononce pas bien, hein, O'Flaherty Wiles Wilde.
Oui.
Quand il naît, le 16 octobre 1854 à Dublin, c'est une allitération poétique.
Exactement.
Avant la lettre.
Exactement, parce que la mère de Wilde, Lady Wilde, qui était une grande poétesse, et qui militait pour l'indépendance de l'Irlande dans un journal qui s'appelait The Nation, La Nation. Donc c'était une indépendantiste, elle rêvait d'Italie et elle se faisait appeler Speranza. C'était une assez bonne poétesse d'ailleurs. Et tous les samedis, après-midi, elle avait à Dublin le salon littéraire le plus couru, où Wilde, tout petit, s'amusait à rencontrer les plus grands écrivains à l'époque. Il y avait George Bernard Shaw, qui s'amuse à prendre le petit Wilde sur ses genoux et le faire un petit peu danser comme cela. Il avait le grand poète Yeats, qui sera plus tard prix Nobel de littérature. Donc Wilde a été tout petit et immergé dans la poésie, dans les arts. La mère de Wilde était quelqu'un d'assez flamboyant.
Donc c'était une militante, alors
oui,
c'est quand même intéressant.
Une militante pour l'indépendance de l'Irlande, et elle était catholique, contrairement au père de Wilde, qui était protestant.
Et lui aura les deux baptêmes.
C'est ça, oui. Et il va en faire le thème de l'importance d'être constant. Donc, Wilde naît dans la société bourgeoise dublinoise, en Irlande. Son père est chirurgien. ophtalmologue. C'est l'ophtalmologue attitré pour l'Irlande de la reine Victoria. Nous sommes dans l'époque victorienne. Et il est protestant. La mère Speranza, Lady Wilde, est catholique. Et effectivement, le petit Oscar et son frère, qui est 2 ans plus âgé, vont tous les deux être baptisés en cachette par la mère. Wilde a 3 ans ou 4 ans et son frère aîné en a 5. Et ils vont être baptisés en cachette, en catimini, parce que la mère de Wilde ne peut pas dire qu'elle baptise ses enfants catholiques alors qu'ils sont nés protestants officiellement.
Mais lui, Oscar Wilde, serait plutôt de cœur catholique plutôt que cette rigueur protestante.
Voilà, il est de cœur catholique parce qu'il aime la pompe. Il aime les habits des prélats, il aime le rouge, le pourpre et l'or des cérémonies et des églises catholiques. Il mourra d'ailleurs à la fin de sa vie avec l'extrême onction. Il mourra catholique. Et dans le portrait de Dorian Gray, un des plus beaux chapitres du portrait décrit l'atmosphère des églises avec l'encens, avec les dentelles des petits enfants de cœur, avec les crosses, les mitres. Tout cela, Wilde est fasciné par cela. Il n'aime pas trop la rigueur ni anglicane ni protestante et se veut et se voudra toujours catholique.
Alors vous parliez du secret qui entoure ces deux baptêmes. Le secret, la famille Wilde connaît ça assez bien et son père notamment a 2 familles, oui. La famille officielle et un peu en parallèle, en miroir, dites-vous, la famille officieuse.
Oui, c'est ça, parce que le père de Wilde était un grand coureur de jupons. Il n'était pas très beau, mais il avait beaucoup de faconde. Il était très célèbre, avait beaucoup d'argent. Donc, il séduisait volontiers les femmes. Et puis, comme il était chirurgien, il en a parfois abusé. Et il y a eu un procès retentissant contre le père de Wilde, où une des patientes du père de Wilde disait qu'elle avait été violée. Il l'avait endormie, elle aurait été violée. Donc, elle porte plainte. Et il y a déjà un procès célèbre, donc le père de Wilde.
Donc il y a ce parfum de scandale quand même autour de la famille Wilde depuis déjà ce moment-là.
Oui. Et c'est la mère de Wilde qui sauve pratiquement son mari, donc son mari qui a ce procès à Dublin, qui va défrayer la chronique, et elle le sauve en témoignant pour lui. Et à la fin de la vie...
C'est Mère Courage.
Oui, c'est Mère Courage, exactement, exactement. C'est d'ailleurs le titre d'un des chapitres de mon Wilde publié chez Gallimard, c'est Mère Courage. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, Oscar, enfin à la fin de sa vie, 5 ans avant la fin de sa vie, en 1895, quand il a son procès, il peut fuir. Et sa mère lui dit, ne fuis pas, tu dois affronter le procès comme ton père. Il s'est sauvé de son procès, tu vas te sauver aussi. Sauf que pour lui, ça n'a pas réussi.
Je crois que pour les étrangers, c'est-à-dire pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, Wilde a toujours été considéré comme un écrivain soi-disant anglais. Il faut se souvenir qu'à l'époque, l'Irlande faisait partie de la Grande-Bretagne. Donc il était classé comme écrivain anglais. Mais depuis une vingtaine d'années, on se rend compte que les influences de jeunesse, surtout de jeunesse sur Wilde, les influences celtiques, les influences irlandaises, sont extrêmement fortes. La tradition orale de l'Irlande étant quelque chose que lui avait appris son père tout en étant jeune. C'est l'aspect surtout du parleur, du conteur dans Wilde qui est l'influence celtique, l'influence de l'Irlande. Il faut se souvenir qu'il avait passé quand même jusqu'à son 24e année en Irlande, malgré le fait qu'il est allé à Oxford. Il a passé toutes ses vacances dans l'Ouest ou à Dublin, donc l'influence irlandaise sur Wilde est énorme.
Une interview, un extrait d'une interview de Merlin Hollande. Merlin Hollande, c'est le petit-fils d'Oscar Wilde. Mais dites-moi, Daniel Salvatore Schiffer, pourquoi ne s'appelle-t-il pas Merlin Wilde ? On a commencé à parler du patronyme de Wilde. Et on va voir que ce patronyme, d'abord, il va s'effacer à un moment donné des affiches du théâtre londonien.
Exact.
Et puis, au fur et à mesure, il va même disparaître de l'état civil de sa descendance.
Oui. Ce qui est amusant, c'est que Wilde, en fait, descend d'une famille hollandaise. son ancêtre le plus célèbre était un mercenaire qui travaillait à la solde de celui qui viendra Guillaume le Conquérant. Et pour le remercier, Guillaume le Conquérant a anobli ce mercenaire hollandais qui s'appelait De Wilde, qui est aussi un peintre hollandais et dont certaines œuvres sont exposées au Rijksmuseum à Amsterdam, aux côtés de Rembrandt ou de Vermeer. Eh bien, Guillaume le Conquérant va anoblir De Wilde et il va le faire anglais et donc il va devenir De Wilde. Mais comme « de » n'est pas une particule aristocratique en Angleterre, contrairement à la France, le « de » va disparaître, elle va devenir « Wilde ». Voilà l'origine du nom d'Oscar Wilde. Mais ce qui est intéressant, c'est que le petit-fils d'Oscar, aujourd'hui, qui est d'ailleurs le commissaire de cette très belle exposition au Petit Palais de Paris, Merlin Holland, ne s'appelle pas Wilde, mais Holland. Le lien avec « de Wilde », le lien avec « de Wilde » hollandais de Guillaume le Conquérant. En fait, la femme d'Oscar Wilde, Constance Lloyd, quand Wilde est en prison, elle va en Suisse, du côté de Neuchâtel, passer des vacances avec ses enfants pour se reposer. Notamment, elle était fatiguée et triste avec tout ce qui se passait autour du procès d'Oscar Wilde. Et elle arrive à Neuchâtel et le patron de l'hôtel lui demande son nom, ses papiers. Et il apprend qu'elle s'appelle donc Constance Wilde. Or, le nom était tellement, à l'époque, sulfureux. Le procès de Wilde, c'est un véritable scandale qui défraye la planète entière, notamment les États-Unis, où Wilde, dans sa jeunesse, avait été faire une série de conférences pendant un an. Donc, il la chasse avec ses deux enfants de cet hôtel, le patron de l'hôtel. Elle se retrouve à la rue avec ses deux enfants en bas âge et ses valises. Le nom de Wilde est importable pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de patronyme et elle prend comme nom de famille le prénom de son frère, le deuxième prénom, Holland, qui est un aristocratique en Angleterre.
Mais alors, plus dur encore, Oscar Wilde lui-même, quand il va sortir de prison, va aussi changer de nom et va s'affubler d'un nom d'emprunt assez étrange, Sebastian Melmoth.
Voilà, parce que donc, quand il va en prison, il est déchu de tous ses droits, de ses droits paternels, il ne peut plus approcher ses enfants, il ne peut plus approcher sa femme, tout est vendu, tous ses biens sont vendus pour pouvoir payer son procès. Son nom même est rayé du registre de l'état civil. Il quitte la prison de Reading et le soir même, il s'en va pour la France, où il va finir par mourir. Et il prend un nom d'emprunt, Melmoth, qui est en fait un rappel, un renvoi, un roman de son grand-oncle maternel, Charles Mathurin, qui s'appelait Melmoth the Wanderer, Melmoth ou l'homme errant. Donc il meurt sous le nom de Sébastien Melmoth. On ne sait pas que c'est Wilde qui meurt lorsqu'il meurt à l'hôtel d'Alsace le 30 novembre 1900.
Un grand garçon, élégant, bien habillé, selon les lois anglaises et les lois françaises, très sûr de lui, plaisantant avec plaisir, sur des sujets scabreux la plupart du temps. Maintenant, c'était un causeur évidemment très bien, mais il y avait des moments où il était un peu fatigant.
Dans quel sens?
Parce qu'il parlait beaucoup de lui.
Rachilde, qui faisait à 90 ans le portrait d'Oscar Wilde, sans occulter ce qui sera toujours un trait saillant de son caractère, c'est-à-dire le culte de soi, mais peut-être, vous allez nous le dire, Daniel Salvatore Schiffer, peut-être ne peut-on pas être un dandy, même pas absolu tout à fait, si on n'a pas un peu le culte de soi?
Oui, alors c'est ambigu. En fait, il y a des liens très étroits entre Wilde et Nietzsche. Je dis souvent que Wilde était le plus nietzschéen des écrivains, que Nietzsche était le plus wildien des philosophes. Or, Friedrich Nietzsche dit dans « Par de là bien et mal » une phrase très juste qui aurait pu être dite par Wilde. Parler beaucoup de soi est la meilleure façon de se cacher, surtout lorsque l'essentiel est tu. Du verbe taire. Et donc, Wilde parlait beaucoup, mais en fait, c'était pour mieux dérouter le public. Et le vrai Wilde profond, était en fait impénétrable. Et je pense que Rachid, avec toute l'estime et l'admiration que j'ai pour son œuvre, n'a peut-être pas tout à fait compris cette dimension.
Ou alors elle avait envie de faire un bon mot, comme
oui, mais arriver. Elle n'est pas la seule. Hein. Une autre grande dame qui a connu Wilde, Sarah Bernhardt, n'a pas toujours été tendre non plus envers Wilde. Vous avez eu la gentillesse de rappeler la seule tragédie de Wilde, Salomé. Il l'avait écrite en français directement pour Sarah Bernhardt. Et Sarah Bernhardt a toujours refusé de la jouer, de l'interpréter, tellement le nom de Wilde était sulfureux, elle ne voulait pas se compromettre. Et quand Wilde, en prison, qui était sans argent à sa sortie de prison, veut revendre la pièce Salomé à Sarah Bernhardt, qui elle est richissime, elle refuse.
Oui, ou elle laisse traîner, disons que.
Oui, et elle l'a finalement interprétée, mais longtemps après la mort de Wilde, en Angleterre, à Londres, en anglais, mais ne l'a jamais interprétée à Paris, en français, alors que la pièce, à l'origine, est écrite pour elle et en français directement.
Alors, vous parlez de Nietzsche, Daniel Salvatore Schiffer. C'est peut-être l'occasion, justement, de revenir un petit peu sur la formation intellectuelle de Wilde, qui était un élève modèle, d'abord enfant, un petit savant, et puis après à la Portora School, puis à Trinity College, donc la grande université de Dublin. Signalons quand même que durant ses études à Dublin, son adolescence, sa jeunesse est lourdement endeuillée par la perte de sa sœur et de ses deux demi-sœurs dans des circonstances tragiques.
Voilà, la mort a toujours rôdé autour de Wilde. Il perd sa jeune sœur, Isola, qu'il aimait beaucoup. Hein. Lorsque Wilde mourra, on va retrouver dans ses petits objets tout ce qui lui reste, une enveloppe avec une mèche de cheveux d'Isola qu'il a toujours gardée pendant des années auprès de lui. Ses deux demi-sœurs, donc des filles de son père, ce fameux coureur de jupons qu'il a eu hors mariage, eh bien, elles sont mortes aussi dans des circonstances tragiques. Leur robe a brûlé lors d'un bal à côté d'une cheminée, d'un feu de cheminée. Et ce qui est intéressant, c'est la formation intellectuelle de Wilde. Donc, il fait Portora School à Dublin, Trinity College, mais surtout Oxford.
C'est l'un des meilleurs étudiants de Trinity College.
Oui, c'est ça. Il parle plusieurs langues. Bien sûr, l'anglais, mais aussi le français. Il est élevé par une nounou française, l'italien, le grec et le latin. Il traduit à vue d'œil les grands auteurs grecs et latins. Il est traduit en anglais. Il est le meilleur élève. Il a d'ailleurs un prix très important. Le Newsgate Prize.
Mais il faut dire qu'il a de bons professeurs, et notamment John Pentland Mahaffey.
Oui, c'est à Trinity.
À Trinity.
Et puis à Oxford, surtout, il a les deux plus grands philosophes de l'époque en Angleterre. Ils sont très distincts, très différents, mais ce sont deux monstres sacrés. Il y a Walter Pater, qui est hédoniste, matérialiste, un amoureux de la Renaissance italienne et de Florence. Et John Ruskin, ensuite, qui est lui un idéaliste, un spiritualiste, qui est un amoureux de Venise. Et ce sont ces deux maîtres, Walter Pater, l'hédoniste, d'une part, l'épicurien, et John Ruskin, le platonicien, l'idéaliste, qui, tous les deux, vont influencer Wilde et vont faire de lui le dandy. C'est à Oxford qu'il devient vraiment dandy. Et le dandysme, c'est justement ça. C'est une synthèse entre l'hédonisme épicurien, qui était Walter Pater, et l'ascèse stoïcienne, la discipline, qui était Ruskin. Et Wilde a parfaitement intégré ces deux dimensions, à la fois l'hédoniste et l'ascète, ce qui est la définition même du dandysme.
Oui, parce qu'il y a un côté théoricien.
Oui.
Chez Wilde, on a l'impression qu'il est comme ça au naturel, mais en fait, à Oxford, et avec ses deux professeurs, il va structurer quand même sa pensée. Quels en seraient les grands axes, notamment peut-être dans le rapport entre l'art et la vie?
Voilà, c'est ça. C'est vraiment Walter Pater et John Ruskin qui lui ont donné cet amour de l'art. Lorsque Wilde est à Oxford, il va faire un voyage. C'était à l'époque une chose due pour tous les enfants, les fils de bonne famille, c'était de faire un voyage en Grèce et en Italie, chez les classiques. Et le premier voyage qu'il fait, c'est en Italie, et il va à Florence. Il fait vraiment le tour de la Toscane, voir les œuvres d'art. Il est fasciné par Florence. Puis ensuite à Venise, parce que Ruskin a écrit un livre qui s'appelle « Les pierres de Venise », dont Proust parle dans « La recherche du temps perdu ». Proust parle beaucoup de Ruskin. Pater lui a écrit sur Florence un livre qui s'appelle « La Renaissance », dont Wilde dit qu'il est son livre d'or, son livre de chevet. Et Wilde est vraiment nourri par cet hédonisme de Pater et par ce platonisme de Ruskin. Et Wilde écrit 4 essais philosophiques dont personne ne parle. Le recueil de ces 4 essais s'appelle « Intention ». Et c'est là qu'il écrit des véritables essais sous forme de dialogue, la plupart, des véritables dialogues platoniciens ou socratiques. Il écrit « Le déclin du mensonge ». le critique comme artiste, la vérité des masques, et puis la plume, le crayon, le poison, qui est moins un essai, celui-là, c'est plutôt une nouvelle, mais en tout cas, trois essais importants de véritable philosophie de l'art. Il lisait beaucoup Kant, Hegel, on l'a vu dans ses notes d'écoliers et d'étudiants à Oxford. Il aimait la philosophie, en particulier Emmanuel Kant, dont la troisième critique, qui est la faculté de juger, est un des plus beaux livres d'esthétique qui soit.
C'est la compagnie des auteurs et nous parlons d'Oscar Wilde avec Daniel Salvatore Schiffer. Bon, parmi la pensée, ce qui a structuré la pensée d'Oscar Wilde, plus inattendu se trouve Karl Marx. Alors pas un Karl Marx trop littéral, mais tout de même un socialisme, disons, qu'il a même théorisé dans un ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous parler de la forme de socialisme qui était celle d'Oscar Wilde?
Ah ben, je vous remercie de me poser cette question. Vous êtes un des rares à en parler, je vous en remercie.
C'est assez étonnant.
C'est
en
assez
fait.
Étonnant, mais vous avez vraiment très très bien lu mon modeste petit hommage à Wilde, cette biographie de Wilde.
En foliobiographie.
Pardon?
En foliobiographie.
En foliobiographie, oui. Effectivement, Wilde a lu Marx, et pas seulement, je vous ai parlé de Hegel, et Marx dérive quand même de Hegel. Bon, ça c'est un autre cours, c'est un vrai cours de philosophie, bien sûr. Mais Wilde écrit un petit livre qui s'appelle « L'âme de l'homme sous le socialisme ». Ce livre paraît lorsqu'il est en prison. Donc il va en prison en 1895 et en sort en 1897, et ce livre sort lorsqu'il est en prison, mais il l'a écrit un petit peu avant. Alors, c'est en fait une utopie socialo-libertaire. Il y a à la fois du socialisme et pas vraiment du communisme, mais en tout cas, plus que Marx, c'était plutôt les anarchistes, des gens comme Proudhon ou Bakounine, et libertaires, ça sûrement. C'est une véritable utopie libertaire, mais il y a aussi les influences de la Grèce antique. Donc, il essaie de faire un mélange, une synthèse, comme toujours, comme souvent chez Wilde, entre là le socialisme libertaire, d'inspiration Proudhon, et l'antiquité grecque. Certains philosophes comme Platon ou Socrate, voire Aristote, tout en y ajoutant une dose de christianisme, parce que Wilde a toujours été fasciné par la religion. On a parlé du catholicisme, et Wilde, dans l'âme de l'homme sous le socialisme, dit que l'avenir de l'humanité, s'il y en a un, c'est une convergence entre le socialisme, le platonisme, l'idéalisme platonicien, et le christianisme. Dans ce livre-là, il dit notamment que la figure de Jésus, il ne croyait pas spécialement en Jésus, de sa nature divine, mais il admirait l'homme parce que c'était quelqu'un qui s'était révolté. Il y a l'aspect rebelle chez les dandys qui est très important. Il s'était révolté contre l'État, contre à la fois les Juifs et les Romains. C'est à ce point révolté qu'il a fini par être crucifié.
Il s'identifiait même un petit peu au Christ.
Il s'identifie à Jésus. Il dit même textuellement que c'est le premier des poètes romantiques. Mm-hmm. C'est ce que Wilde dit dans l'âme de l'homme sous le socialisme à propos de Jésus, et qu'il répétera dans son De Profundis, qu'il écrira lui en prison. Et donc, il dit que Jésus est le premier des grands poètes romantiques, voire des premiers dandys, par son dépouillement, par son aspect rebelle, par ses bons mots, les paraboles, par exemple. Vous avez dit très justement que Wilde était un conteur. Ben, Jésus n'a rien écrit, il n'a fait que compter, exactement comme Socrate. Il n'a fait que parler à des disciples ou à des jeunes, à séduire les foules, exactement comme faisait Wilde, comme Bouddha, comme de grands penseurs auxquels Wilde se réfère constamment. Et la figure de Jésus est vraiment, indépendamment des écritures Wilde ne croyait pas spécialement en Dieu, la question n'est pas là. Mais la figure de Jésus le fascinait comme celle de Socrate ou de Bouddha, qui sont des maîtres à penser. Et Wilde, à sa manière, était un maître à penser. C'est pour cela qu'il se permet de dire qu'il n'a mis que son talent dans ses œuvres et il a mis tout son génie dans sa vie. Lorsqu'il arrive à 20 ans aux États-Unis pour faire sa conférence, on lui dit « Qu'avez-vous à déclarer ?» Il dit « Je n'ai rien déclaré sinon mon génie ».